Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo le spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, bon mercredi. J'espère que vous allez bien. Marianne Paquette au micro qui est là pour les 30 prochaines minutes. C'est l'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Le Parkinson, et c'est pas la première fois que je vous en parle. C'est un sujet qui me touche personnellement beaucoup, touche donc plus de 100 000 personnes au Canada, ce qui en fait la maladie dégénérative la plus répandue au pays, et ce, après l'Alzheimer. Et récemment, la Société Parkinson du Québec lançait une trousse intitulée « Mieux vivre avec le Parkinson », et ce, afin de guider au quotidien les gens qui sont bien sûr touchés par la maladie, mais également tous les proches, toute la famille, les proches aidants, quoi, qui, suite au diagnostic, se trouvent un petit peu, désemparés, doivent jongler avec tout ce que peut entraîner la maladie, tout ce qui peut être modifié aussi par la maladie, que ce soit l'adaptation au milieu de vie, la prise de médicaments et tous les autres besoins qui changent. Donc, en deuxième partie d'émission, Nicole Charpentiel, qui est directrice générale de la Société Parkinson du Québec, sera là pour nous en parler davantage. Et puis, selon un rapport récent de l'Institut de la statistique du Québec, la santé mentale des Québécois s'améliore. Bon, c'est assez léger, mais tout de même, c'est présent si l'on compare les chiffres de l'année 2002 et 2012. Et même si ça demeure léger, comme je vous le disais, force est de constater qu'il y a eu beaucoup de boulot de fait en ce qui a trait à l'éducation, à la sensibilisation, également à la communication en matière de santé mentale, ce qui contribue, j'imagine, à la diminution du malaise d'en parler, également tout ce qui est lié au tabou. Et d'une part, je pense qu'on peut être assez fier de ce progrès-là, de ces progrès-là, mais il reste des enjeux qui sont importants sur lesquels se pencher, notamment la santé psychologique des adolescents, des femmes qui sont toujours plus touchées par les maladies mentales, et aussi l'accessibilité aux soins de santé. Je fais le point à l'instant avec Rose-Marie Charest, elle psychologue, communicatrice, conférencière et consultante. Rose-Marie Charest, merci d'être là.
Ça me fait plaisir.
Récemment, vous avez annoncé votre départ de l'Ordre des psychologues du Québec. Ça faisait 17 ans que vous étiez à la tête de cette organisation-là. À travers toutes ces années, qu'est-ce que vous avez observé, peut-être en ce qui a trait au changement de la perception des Québécois en matière de santé mentale et sur les maladies mentales?
Bien, fort heureusement, moi, j'ai été à même de constater que il y avait moins de tabous. Mm-hmm. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a plus. Il faut demeurer très vigilant par rapport à ça. Mais il y en a moins, en tout cas pour les troubles réguliers, les troubles plus quotidiens. Les gens osent davantage parler de leur anxiété, ils vont parler, par exemple, de la dépression plus facilement en termes de burn-out. Alors, on sait que le burn-out, c'est une forme de dépression. C'est pas que de la dépression. Il y a aussi de l'anxiété dans le burn-out, mais il y a quelque chose de plus acceptable socialement, comme si je suis devenue déprimée parce que j'ai travaillé fort, j'ai une bonne raison de l'être, tandis qu'autrement, j'aurais pas de bonne raison. Ça, donc, il y a encore du travail à faire. Il y a énormément de travail qui reste à faire en santé.
Oui, il ne faut pas s'asseoir sur ses lauriers malgré ces avancées-là. Peut-être aussi que l'un des progrès, c'est que les hommes parlent davantage de leurs soucis en matière de santé mentale.
Tout à fait. Je pense qu'il y a énormément de progrès qui a été fait à ce niveau-là. Moi, quand j'ai commencé à pratiquer, je peux dire que ma clientèle était composée à peu près, je dirais, de 80-90% de femmes.
Ouais.
Or, on sait qu'actuellement, la clientèle des psychologues est entre 65-70% de femmes. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même plus d'hommes qui consultent. Une autre chose qu'on constate, c'est que les gens sont moins gênés de le dire. Mm-hmm. Les gens, par exemple, je rappelais ça l'autre jour, quand j'ai commencé à pratiquer, les gens descendaient de l'autobus 2-3 arrêts avant la clinique pour pas être vus en entrant dans la clinique. Mm-hmm. Or, maintenant, si vous alliez à la clinique chez nous, vous pouvez aller voir dans la salle d'attente et vous allez voir quelqu'un qui est connu, qui est assis là, qui lit son journal en attendant de voir son psychologue. Donc, il y a moins de gêne par rapport au fait de consulter. Et ça, déjà, c'est excellent.
Oui.
Où il y a encore énormément de progrès à faire. Bien sûr, il y en a encore chez les hommes et il y en a encore pour les jeunes. On tient trop souvent pour acquis que parce qu'il est jeune, ça va passer tout seul. C'est... ou s'il ne fait pas grand-chose de sa vie, c'est parce qu'il est paresseux.
Mm-hmm.
Ou s'il n'arrive pas à se concentrer, c'est parce qu'il est tannant. Donc, on a plus facilement un jugement de valeur chez les jeunes. Et parfois, ces jugements de valeur-là en ajoutent à la souffrance qui est déjà là chez l'enfant, chez l'adolescent, chez le jeune adulte.
On pense que ça va partir avec la crise de l'adolescence. On attribue ça ouais. un petit peu. Et pourtant, les chiffres sont assez inquiétants mm-hmm. en cette matière. Donc, chez les jeunes Canadiens, je n'ai pas les chiffres ici au Québec, la prescription d'antidépresseurs chez les ados a augmenté de 60 % en 9 ans. C'est mm-hmm. énorme, ça. Est-ce que l'on sait pourquoi? Il n'y a plus d'anxiété?
C'est un sujet extrêmement délicat parce que vous savez qu'on ne peut pas faire de recherche. Les médecins sont obligés d'y aller de façon un peu empirique. Hein, c'est à essai et erreur. Par contre, il ne faut pas non plus jeter une bébé avec l'eau du bain parce que parfois, de ces jeunes-là, il y en a qui ont réellement besoin, il y en a qui sont réellement soulagés. Et il y a aussi le fait que les nouveaux antidépresseurs sont de plus en plus prescrits pour l'anxiété.
Oui.
Alors, les troubles anxieux sont quand même les troubles les plus fréquents. Quand on parle de troubles réguliers, l'anxiété est quand même... D'abord, il n'y a pas un être humain qui ne ressent pas de l'anxiété. Mm-hmm. On s'entend là-dessus. Maintenant, ça devient un trouble anxieux à partir du moment où l'anxiété est telle qu'elle empêche la personne de bien fonctionner et qu'elle la fait vraiment souffrir. Bon, qu'un enfant ait un peu peur, par exemple, avant d'aller passer un examen de mathématiques, c'est une chose, on ne parlera pas d'un trouble anxieux. Mais on va commencer à parler d'un trouble anxieux lorsque cet enfant-là, à cause de son anxiété, n'arrive plus à donner le rendement qu'il est capable de donner à l'école. Autrement dit, il échoue à l'examen, non pas par manque de connaissances, mm-hmm. mais parce que l'anxiété prend le dessus. Ou il est tellement anxieux qu'il n'arrive pas à se faire des vrais amis. Il est toujours avec son ordinateur. On met beaucoup la faute sur l'ordinateur, mais il ne faut pas oublier que c'est l'utilisateur de l'ordinateur qu'il faut regarder en premier lieu. Est-ce qu'il est en train de se cacher là, derrière quelque chose, parce qu'il souffre trop quand il voit des gens? L'anxiété, c'est très souffrant. Il ne faut pas banaliser ça. Puis on a tendance parfois à banaliser, surtout chez les jeunes.
Mm-hmm. D'après ce rapport de l'Institut de la statistique du Québec, on révélait que les Québécois étaient plus anxieux que les Canadiens. Qu'est-ce qui fait qu'on ressent tant d'anxiété ici au Québec? Bon, j'imagine que c'est dur à expliquer là, de façon extrêmement concrète.
Ouais. J'ai pas de réponse pour ça, à savoir pourquoi les Québécois seraient plus anxieux que d'autres. Vous savez, on a souvent cherché à comprendre pourquoi ces différences entre les Québécois et le reste du Canada. Par exemple, vous avez un beaucoup plus grand nombre de psychologues au Québec que dans le reste du Canada. Dans les médias, on fait appel à des psychologues beaucoup plus au Québec que dans le reste du Canada. Ou même ici au Québec, du côté anglophone, il y a beaucoup moins d'émissions sur la santé mentale, la santé psychologique. Il y a beaucoup moins d'analyses psychologiques qui sont faites lorsqu'il y a des drames. Peut-être notre culture latine qui nous amène à mettre plus facilement des mots sur ce qu'on ressent. Et peut-être que ça influence les réponses au sondage aussi.
Oui.
Donc, ça peut influencer les données. Parce que si on regarde les facteurs qui sont responsables de l'anxiété, il y a plusieurs facteurs, et on n'a pas de raison de croire qu'ils sont différents d'une province à l'autre. Par exemple, il peut y avoir les facteurs génétiques, bien sûr. Il y a aussi les facteurs d'exigence, de stress dans le sens d'exigence, exigence envers les enfants, exigence au travail, donc la difficulté de répondre à ces exigences-là. Il y a aussi l'idéal du moi qui nous rend anxieux, c'est-à-dire l'image idéale de qui on devrait être et qui est toujours ce à quoi on se compare. Et on finit par être anxieux de ne pas y arriver. J'aurais tendance à croire que tous ces facteurs-là peuvent varier d'un environnement à l'autre, mais je ne serais pas capable de dire pourquoi exactement au Québec. Autrement que mon hypothèse, c'est la façon de répondre au questionnaire n'est pas la même,
oui,
je pense.
C'est ça. Et je trouve que vous mettez l'accent sur quelque chose d'assez important. C'est ici, il est plus aisé pour nous de parler de santé mentale, que les maladies mentales sont moins taboues. Ben, c'est peut-être ça qui fait un petit peu tanguer les sondages, là, si on se compare aux autres personnes qui habitent au pays. Ce que l'on sait également, c'est que les femmes encore sont plus touchées par la maladie mentale. Est-ce que c'est aussi parce qu'elles en parlent davantage que ça modifie les sondages?
Les femmes ne sont pas plus touchées pour tous les troubles mentaux. Les femmes sont plus touchées par les troubles anxieux, les troubles dépressifs, et les hommes sont plus touchés par des troubles de consommation et des troubles psychotiques. Donc, ça dépend, et des troubles aussi du comportement, les troubles du contrôle du comportement. Donc, ça dépend de quelle pathologie on parle. Les femmes ont généralement plus de troubles psychiques lorsqu'il s'agit de thèmes plus contenus, l'anxiété, la dépression, ce qui se vit à l'intérieur, tandis que les hommes davantage pour ce qui se joue sur la scène extérieure. Évidemment, les troubles psychotiques ont une grosse composante qui est génétique. Donc, là, il faut chercher du côté biologique pour les explications. Et je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de troubles psychotiques chez les femmes, mais il y en a un degré un peu moins quand même. Et il y a beaucoup plus de troubles de consommation chez les hommes que chez les femmes. Et les troubles du comportement aussi, c'est plus grave. Bon, pourquoi les femmes sont plus anxieuses, plus déprimées? Regardons ça. Pourquoi plus anxieuses? Bien, les exigences envers elles-mêmes sont très grandes. Vous savez, historiquement et même biologiquement, c'est énorme la responsabilité qui est confiée à une femme. C'est la responsabilité des générations futures. C'est la responsabilité de sa famille, la responsabilité de ses enfants. Évidemment, ça a beaucoup évolué au cours des dernières décennies, mais le sentiment d'être responsable de ses enfants est encore très grand parce qu'on ne change pas quelque chose qui est inscrit dans l'espèce, qui est inscrit dans le genre. On ne change pas ça aussi rapidement en quelques décennies. Ce n'est pas suffisant pour changer ça. Maintenant, et d'ailleurs, les études le montrent, les femmes prennent encore beaucoup plus de responsabilités familiales que les hommes, et ce, même si les hommes s'impliquent beaucoup plus qu'auparavant, et c'est la très, très bonne nouvelle des dernières décennies.
Et ce, même si elles prennent des responsabilités de plus en plus au sein de leur travail.
Oui, absolument. Et le deuil est difficile à faire, le deuil de la mère idéale. Alors donc, la même image de mère idéale est transposée chez des générations de femmes qui, en plus, ont un travail à temps plein et donc qui ont de la difficulté à accepter que, bon, peut-être qu'il y a des choses que leur mère faisait pour elles qu'elles ne feront pas pour leurs enfants ou que d'autres qu'elles vont faire pour leurs enfants et donc compensent énormément. Ça peut être une des explications à l'anxiété. Maintenant, pour ce qui est de la dépression, vous savez, la dépression, c'est souvent de la colère retournée vers soi-même, envers soi-même. Et l'expression de la colère, la capacité de s'affirmer, sont des outils qu'on devrait mettre davantage à la disposition des jeunes femmes, que des jeunes femmes apprennent davantage à s'affirmer. Parce que vous savez que là, pour un même comportement, on a tendance à juger, lorsque le comportement est émis par une femme, on a tendance à dire qu'elle est agressive, tandis que le même comportement émis par un homme, on va dire qu'il s'affirme.
Il a du caractère.
Caractère, il s'affirme. Donc, il y a une tendance pour la femme à pas trop s'affirmer, à pas trop s'exprimer. Vous me direz, oui, mais les femmes s'affirment, on les voit maintenant sur le marché du travail, on les voit prendre des postes de pouvoir, tout ça. C'est vrai. Il y a des femmes qui prennent la parole, il y a des femmes qui prennent le pouvoir. Mais dans le quotidien, il reste encore énormément à faire pour que la femme exprime son pouvoir à elle, à sa manière à elle. Parce que, vous savez, trop souvent, on a tendance à prendre le modèle qu'on connaît. Oui. Et le modèle qu'on connaît, peut-être qu'il est trop loin de nous et que ça devient plus lourd d'exercer un rôle en prenant un modèle qui ne nous ressemble pas. Alors, moi, j'ai très, très confiance à l'évolution de la situation de la femme. J'ai confiance, mais ça ne veut pas dire qu'il faut dormir sur ça. Parce qu'il faut absolument continuer à progresser pour que l'exercice du pouvoir, pour que l'affirmation ouais. se fasse de façon naturelle.
Et ça, dès que la jeune fille est toute petite. Ouais. Là.
Ouais. Ben, la première chose qui arrive à la jeune fille toute petite, c'est d'avoir des modèles. Mm-hmm. Alors, les petites filles, maintenant, ont plus de modèles, voient plus facilement leur mère exercer un certain pouvoir, donc vont apprendre de ces modèles-là. Mais elles voient aussi leur mère exercer le pouvoir intrafamilial. Alors, le pouvoir intrafamilial d'une mère, il est très, très grand. Il est... quand une mère dit quelque chose à son enfant, elle est elle-même en position de pouvoir. Or, quand elle va arriver à l'extérieur, elle n'aura pas, avec le même geste, elle n'aura pas le même pouvoir. Mm-hmm. Alors, donc, c'est ça qu'il faut apprendre à transférer. Il faut apprendre aussi à diversifier les pouvoirs, right? Qu'ils soient dans toutes les sphères de notre vie et que tout le monde exerce le sien. Pas rien que les femmes et les hommes. Vous savez, les hommes qui deviennent violents, ce ne sont pas des hommes qui ont exercé leur mm-hmm. propre pouvoir. Ils sont devenus violents, ils ont explosé à un moment donné parce qu'ils n'avaient pas été capables d'exercer autrement, de façon saine. Et on dirait que le mot « pouvoir » nous fait peur. À chaque fois qu'on le prononce, c'est comme si on disait « abus de pouvoir ». Le jour où on cessera tous, hommes, femmes, enfants, adolescents, personnes âgées, le jour où on cessera tous d'avoir peur de notre propre pouvoir, peut-être qu'on va trouver un équilibre dans les relations interpersonnelles où il y aura moins d'abus.
Rosemarie Charest, le temps file à vive allure. Il nous reste 2 minutes et je veux absolument que vous nous parliez de ce cheval de bataille, je pense, que vous avez adopté, c'est l'accessibilité aux soins, l'accès à un psychologue qui, selon vous, est peut-être un petit peu difficile en ce moment.
Et très difficile. Écoutez, encore hier, j'étais à la recherche de services pour un jeune homme au tout début de la vingtaine qui est souffrant et qui n'a pas juste besoin d'aller dans le réseau public parce que financièrement, il y aurait besoin d'y aller, mais aussi parce qu'il y aurait besoin d'une équipe multidisciplinaire et il y a juste le réseau public qui peut offrir ça. C'est impossible pour la personne qui elle-même est souffrante et tout ça de s'y retrouver facilement. Je ne dis pas que c'est impossible d'avoir des services. Donc, on aurait plusieurs pas à franchir. D'abord, donner un meilleur accès au réseau public. Mm-hmm. Deuxièmement, trouver une façon d'informer les gens pour que ce soit facile de s'y retrouver, de trouver l'accès. Troisièmement, s'il n'y a pas assez de services dans le réseau public, trouver une façon de rendre plus équitable l'accès aux services, même dans le réseau privé, au même titre qu'on l'a fait à un moment donné pour le dentiste ou pour l'optométriste, pour au moins les jeunes. Si on ne peut pas se permettre comme société de perdre un jeune dans la vingtaine qui finira pas ses études, qui rentrera pas sur le marché du travail, quand ça, on aurait pu prévenir ça. Puis, quand on n'arrive pas à le prévenir, lui, il souffre, il continue à souffrir, sa famille aussi, et oui. toute la société va devoir le supporter, ce qu'on aurait pu éviter. Et c'est pas vrai qu'on n'a pas le moyen de donner accès à des services psychologiques. Vous voyez, j'en parle toujours avec mon cœur, oui. parce que c'est ces gens-là, j'en parle pour ceux-là, justement, qui crieront pas haut et fort, qu'il y a une injustice flagrante à ne pas avoir accès à ces services.
Mais il y a suffisamment de psychologues au Québec.
C'est pas du tout un problème. Au Québec, il y a suffisamment de psychologues. Pour qui peut se payer les services d'un psychologue, il n'y a pas de pénurie. Il y a une pénurie, il y a une iniquité parce que ceux qui ne peuvent pas se payer des services et donc qui attendent après le réseau public n'ont pas facilement accès. Et les listes d'attente sont longues. Vous savez, chez certaines personnes, si vous leur demandez d'attendre 3 mois, ils ne consulteront pas dans 3 mois. Parce que c'est maintenant qu'ils ont besoin et maintenant qu'ils sont motivés pour y aller. Donc, on devrait en faire une priorité parce que ce n'est pas parce que ça ne saigne pas que ça ne fait pas mal. Ouais.
Et j'imagine que pendant les prochaines années, vous n'allez pas vous arrêter, même si vous avez quitté la tête de l'Ordre des psychologues du Québec, vous continuerez à militer, à être dans les médias. On peut aller sur votre site rosemariecharest.com pour en savoir davantage. On vous souhaite encore de beaux projets.
Merci.
Et on nous souhaite de vous entendre encore, Rosemarie Charest.
Ça me fait plaisir si je peux rendre service à la population de cette manière-là.
Au plaisir.
Merci à vous. Au revoir.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, dans la région de Montréal, 514-282-1999, poste 220, et sans frais ailleurs au Québec, 1-800-361-0635, et par courriel à mpaquette@commercialvusezvoix.com. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @commercial, canal, _M.
Alors, comme vous voyez, ou peut-être comme vous entendez, on tente de joindre Nicole Charpentier, elle, directrice générale de la Société Parkinson du Québec, pour cette entrevue sur le programme « Mieux vivre avec le Parkinson » qui a été lancé à la fin du mois d'avril, pendant le mois de sensibilisation à cette maladie. Mathieu travaille fort en régie pour tenter de la joindre. On se croise les doigts. Je vous reviens dans quelques instants. Nicole Charpentier, bonjour.
Bonjour.
Vous étiez loin.
Oui, je m'excuse.
Madame Charpentier, la maladie de Parkinson est encore trop peu connue au Québec et cette trousse que vous avez lancée récemment à la fin du mois d'avril, c'est un petit peu pour guider, outiller, informer les familles qui viennent de recevoir un diagnostic, bien sûr, pour les personnes aussi qui sont touchées par la maladie. Ça tente de répondre à quel besoin cette trousse-là?
Mais comme vous le mentionnez, la maladie est encore trop peu connue pour les personnes qui vivent avec la maladie ou qui reçoivent le diagnostic. Donc, la Société Parkinson du Québec voulait offrir les moyens pour faire en sorte que les sociétés Parkinson régionales ou toute personne atteinte qui vit dans son milieu de vie puisse avoir accès à de l'information juste qui est contemporaine par rapport à la maladie de Parkinson. Mm-hmm. Donc, les trousses Mieux vivre sont dédiées aux bénévoles ou aux ressources humaines ou à toute autre personne qui pourrait agir comme informateur au nom de la Société Parkinson ou de son réseau.
Vous avez divisé la trousse en 4 grands thèmes.
Oui.
Qui sont alimentation, médication, l'adaptation au milieu de vie, aussi l'exercice. Pourquoi avoir choisi ces 4 thèmes?
En fait, c'est des thèmes qui sont très, très fréquents pour les dans la vie de quelqu'un qui vit avec la maladie de Parkinson, et on souhaitait faire en sorte que l'acquisition de connaissances pour les gens qui vivent avec la maladie de Parkinson puisse leur permettre d'accroître leur pouvoir d'agir sur la maladie. Alors, c'est ce qui a guidé là, les thèmes qu'on a choisis. La médication, c'est parce que souvent, c'est une des modalités de thérapeutique qui est privilégiée à pratiquement en tête de liste là dans le traitement de la maladie. Et l'exercice, c'est également une des évidences scientifiques qui est prouvée le plus efficace pour accroître la qualité de vie puis maintenir ses capacités pour quelqu'un qui vit avec la maladie. On trouvait aussi que l'alimentation, c'est un élément important pour potentialiser l'utilisation de sa médication et s'assurer de prévenir d'autres maladies, donc bonifier sa condition de santé. Et l'adaptation dans le milieu de vie, c'est que, comme vous le savez, la maladie de Parkinson est dégénérative, puis parfois, en aménageant son environnement de façon sécuritaire, ça peut contribuer à prévenir des chutes ou une diminution de la capacité fonctionnelle, donc accroître sa capacité à se maintenir dans son milieu de vie le plus longtemps possible.
En ce moment, Mme Charpentier, quels sont les grands enjeux autour de la maladie de Parkinson, notamment en termes de recherche, de découverte également? On en est où?
En fait, on travaille sur plusieurs aspects au niveau de la recherche, notamment des aspects pour essayer de comprendre mieux quelles sont les causes de la maladie. Un autre élément, c'est essayer de trouver qu'est-ce qui pourrait nous aider à prévenir la destruction des neurones qui sont responsables de la production de la dopamine. Mm-hmm. Il y a d'autres éléments de recherche qui sont sur comment on pourrait potentialiser la qualité de vie des gens qui vivent avec la maladie, soit en bonifiant certaines stratégies comme l'exercice ou d'autres éléments qui pourraient faire en sorte que les gens puissent demeurer actifs ou de façon le plus apte possible à rencontrer les exigences de leur vie. Et finalement, il y a aussi toute la recherche sur les cellules souches qui est en cours et qui se poursuit.
Je pense aussi que l'un des objectifs de cette trousse « Mieux vivre avec le Parkinson », c'est un peu de joindre les gens qui sont en région éloignée et de maintenir les services de la société auprès de ces familles-là qui ne sont pas près des grands centres.
Tout à fait. C'est certain qu'il y a une énorme variance entre ce qu'il y a comme possibilité de service dans les grandes régions montréalaises ou Québec versus les plus petites régions. Et en formant des personnes qui vont être aptes à faire de la formation ou de l'information en région, on s'assure qu'il va y avoir un service de proximité accessible au plus grand nombre de personnes possible dans les régions.
Et pour consulter le guide, on peut aller sur votre site?
Oui, tout à fait. Il y a une portion de notre site Internet qui est dédiée aux trousses mieux vivre.
ParkinsonQuébec.ca.
Tout à fait. Et si jamais il y a des gens dans les régions qui souhaitent être formés comme informateurs, vous pouvez également communiquer avec nous
Parfait.
Via courriel et on se fera un plaisir d'aller vous
donner
la formation.
Merci, Nicole Charpentier. Je rappelle, vous êtes directrice générale de la Société Parkinson du Québec. Merci beaucoup. Bon été à vous.
Merci à vous également. Au revoir.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Marianne Paquette au micro. On se donne rendez-vous demain. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.